Ce soir, voilà, ça va être une célébration, celle d'une des plus belles voix de l'histoire du rock qui s'est éteinte, mais qu'on va faire revivre et qui va nous illuminer durant toute cette heure. Bien sûr, tout le monde a entendu cette chanson au moins une fois dans sa vie, dans un film, dans une pub, Be My Baby. C'est un de ces classiques increvables dont on a l'impression qu'il ne disparaîtra jamais, impossible. Oui, bien sûr, on ne connaît que ça, mais sans connaître forcément celle qui interprétait cette chanson. Elle s'appelait Veronica Bennett, dite Ronnie, et sous son nom de femme mariée de Ronnie Spector, elle fut la chanteuse principale d'un trio vocal new-yorkais du nom des Ronettes. Un groupe qui a changé la face du rock'n'roll et sans lequel ni les Beatles ni les Stones, vous verrez pourquoi, n'auraient été tout à fait les mêmes. Ronnie Spector s'est éteinte il y a une semaine et les hommages pleuvent de partout. C'était une des voix les plus mémorables, les plus attachantes de la période qui a suivi les débuts du rock'n'roll. Je veux parler de la première moitié des années 60. Bruce Springsteen la vénérait, il l'avait bien des fois fait monter sur scène à ses côtés. Et puis, sans les Ronettes, et en particulier sans cette chanson Be My Baby, sans cette voix, eh bien les Beach Boys seraient demeurés un sympathique groupe vocal de rock'n'roll enfantin. La voix de Ronnie Spector, la puissance de Be My Baby, publiée en 1963, cette orchestration échevelée, a ouvert la porte de tous les possibles aux compositeurs des Beach Boys, Brian Wilson, pour qui il y a eu un avant et un après Be My Baby. Dans sa glorieuse jeunesse, Ronnie Spector fut, je vous le disais, la femme de Phil Spector. Bah oui, Spector, l'homme qui fut sans doute, même sûrement, le premier visionnaire de l'histoire d'une musique populaire qu'il destinait exclusivement aux gamins, aux très jeunes, prépubères, pubères, jeunes adolescents. Oui, pour la première fois, vers le début des années 60, ces très jeunes gens ont constitué pour l'industrie musicale une sorte de groupe social à part, en tout cas un marché à part, spécifique, qui allait vite occuper les premiers plans. Musiciens, orchestrateurs, compositeurs, visionnaires du son, tyran mégalomane, premier enfant roi à être devenu millionnaire de l'industrie du disque, Phil Spector est celui qui avait, entre guillemets, fait Ronnie, et aussi qui l'a défaite. J'aurai bien sûr au cours de cette émission l'occasion d'évoquer la vie tragique de cette femme qui fut la prisonnière d'une sorte de démon en liberté auquel on passait tout parce qu'il était génial et prestigieux et aussi parce que l'argent, parfois, souvent, permet tout, hélas. Phil Spector, je le rappelle, après une longue vie de roi déchu, sorte de fou, s'imaginant encore sur son trône, est mort en prison il y a un an, presque jour pour jour. Il y purgeait une longue peine pour meurtre. Vous le savez peut-être, dans un accès de violence qu'hélas on lui connaissait, violence, et que la justice aurait pu et dû prévenir. Il avait tiré en 2003 une balle de revolver dans la bouche d'une actrice de Los Angeles qu'il avait invitée chez lui. Jusqu'à ses 30 ans environ, eh bien Ronnie Spector a été de trop longues années, la prisonnière de cet homme. On en avait eu des échos depuis les années 70. Elle l'a raconté en détail dans une autobiographie qui a fait sensation à sa parution en 1990. Ce livre s'appelait, bon hélas, je traduis le titre puisqu'il n'est pas disponible dans notre langue, Be My Baby, comment j'ai survécu au mascara, aux mini-jupes et à la folie, ma vie fabuleuse au sein des Ronettes. Un titre long, mais qui résumait parfaitement l'affaire. Alors je vais essayer de ne pas trop m'apesantir sur les aspects, sur les côtés sombres, voire délirants des malheurs de la vie de Ronnie Spector, même si c'est tentant, parce que leur caractère effrayant peut susciter une forme de fascination. C'est sûr, la folie, quand on en est le voyeur parfaitement protégé, peut vous attirer malgré vous, un peu comme lorsque votre regard plonge au fond d'un précipice où vous avez la certitude que vous ne sombrerez jamais. Même si je peux pas faire l'impasse là-dessus, je préfère d'abord vous faire entendre et surtout sentir l'élan, la joie explosive et la lumineuse intensité de la voix de Ronnie Spector qui, au sein des Ronettes, interprétait ce chant d'amour inégalé, « Baby, I love you ».
Bye. Very Good Trip sur France Inter.
I have a boyfriend.
So Young par les Ronettes, un des plus parfaits exemples de ce que Phil Spector appelait ses Teenage Symphonies for the Kids, hein, ses symphonies, petites symphonies adolescentes pour les gamins. Ces roulements de tambour évoquant le tonnerre, ces chœurs languissants qui se font l'écho de toute la souffrance de l'univers. Voilà qui peut paraître boursouflé, gonflé hors de proportion, emphatique jusqu'au ridicule. Oui, peut-être. Mais expliquez ça à une fille ou à un garçon de 13, 16, je sais pas, même 20 ans et plus, qui vit sa première trahison, son premier chagrin d'amour. Évidemment que c'est le monde qui s'écroule, c'est la fin du monde, la vie ne vaut plus d'être vécue, on a envie de se suicider, et c'est exactement ce que savait d'instinct, cette espèce de paria, de garçon bizarre et rejeté qu'était Phil Spector, malingre et maladroit, qui avait dû vivre bien des déconvenues auprès des filles, et qui savait ce qui se passait dans la tête, dans le cœur de ces gamins, de ces gamines, de ces kids, voilà, entre guillemets, auxquels s'adressaient les chansons qu'il co-écrivait et orchestrait. Et il savait aussi, Phil Spector, d'instinct, que cette voix au timbre un peu nasal, rappelant l'enfance de Ronnie Spector, est tellement puissante, aussi cette voix capable de faire vibrer et trembler chaque syllabe, que ce soit de joie débordante ou de désespoir abyssal, était celle qu'il lui fallait. Phil Spector avait découvert Ronnie lors d'une séance dans un des studios les plus fréquentés de New York, s'appelait Myra Mirror Sound, je sais pas comment on dit, cœur de la variété comme du jazz, c'était souvent les mêmes musiciens d'ailleurs. Lui, il avait 23 ans, elle à peine 20, et Ronnie chantait depuis plusieurs années au sein d'un trio vocal où chantait également sa sœur aînée Estelle et leur cousine Nedra. Elles avaient une allure à part. Ronnie et Estelle étaient métisses. Elles avaient du sang africain, amérindien et irlandais. Leur mère était serveuse et leur père, blanc, était un batteur de jazz porté sur la bouteille, du genre sur qui on ne pouvait pas trop compter. Leur cousine Nedra avait quant à elle une ascendance supplémentaire portoricaine. Et les trois avaient une allure bizarre. bien plus délurées que celles de leur principale concurrente d'alors, les Shirelles. Elles portaient une coiffure gonflée, bouffante, en ruche, comme on disait, complétée par une frange. Leurs cils étaient très lourdement épaissis au mascara et les trois Ronettes portaient des jupes aussi serrées que possible. Se souvenait Ronnie qu'elles raccourcissaient elles-mêmes pour mieux montrer leurs jambes en ces temps reculés où les mini-jupes n'existaient pas encore. Cette apparence ne vous rappelle rien, mais oui, évidemment, c'était celle de Amy Winehouse, qui 40 ans plus tard avait pris pour modèle le style de Ronnie Spector. On a du mal à imaginer aujourd'hui, mais quand elles ont débarqué en Angleterre, au début de l'année 1964, pour chanter en première partie des Rolling Stones, ça a été la folie. Les fans criaient, on voulait leur arracher leurs vêtements, même leur voler leurs chaussures. Et à cette occasion, Ronnie, ça n'a rien d'un secret, c'est notoire, se rapprocha de très très près de Keith Richards, auquel elle est d'ailleurs restée liée jusqu'à la fin de ses jours et qui, Keith Richards, comme le parfait gentleman qu'il est demeuré, lui envoyait régulièrement des fleurs jusqu'à la fin de sa vie. Keith Richards a d'ailleurs réécrit une nouvelle préface pour le livre de mémoire qu'a signé Ronnie Spector, je vous en parlais, en 1990 et dont une nouvelle édition est prévue pour le mois de mai prochain. Alors que s'est-il passé? Eh bien, Phil Spector, c'était prévisible, est vite tombé amoureux de sa chanteuse vedette, Ronnie. Et ça a été, hélas, la malédiction de sa vie à elle, je veux dire. Je vous en parlerai tout à l'heure, on peut hélas pas, comme je vous le disais, faire l'impasse sur cette vie de malheur. Mais tout de suite, le bruit du tonnerre pour démarrer une des plus belles chansons interprétées par les Ronettes, Walking in the Rain, signée par le couple new-yorkais Barry Mann et Cynthia Weil, auteur de chansons créées par Elvis, reprises chez nous par Johnny. Walking in the Rain, transcendée bien sûr par la réalisation musicale de Phil Spector, ce sera ensuite le très beau I Can Hear Music, dont les Beach Boys ont livré une interprétation magique, mais qui fut créée par Ronnie Spector et les Ronettes. Tout de suite dans Very Good Trip sur France Inter, Walking in the Rain.
Someday, some way, whoa, whoa.
I Wish I Never Saw the Sunshine, une chanson enregistrée en 1965 par les Ronettes et qui, 9 ans plus tard, en 1974, à la faveur de la mode rétro qui battait alors son plein, fut le dernier succès relatif des Ronettes dans les hit parades, une version d'ailleurs réenregistrée. C'était une période où une jeune génération de musiciens rêvait justement à un âge d'or où la naïveté régnait encore à cette enfance du rock'n'roll. Il n'y avait pas que lui, il y avait Bruce Springsteen notamment, un passionné de rock'n'roll, de rhythm and blues, de soul des origines, qui vénérait les chansons des Ronettes qu'il avait entendues vraisemblablement dans New Jersey, là où il était, près de la côte, à la fête foraine. Sans parler des musiciens punk naissants que les constructions musicales sophistiquées et planantes de Pink Floyd, voilà un exemple parmi d'autres, décourageaient, voire endormaient. Les Ramones notamment, et en particulier leur chanteur Joey Ramone, on en reparlera ce soir, adoraient les chansons des Ronettes et vénéraient Ronnie Spector. « I wish I never saw the sunshine », disait la chanson. Oui, j'aurais préféré ne jamais voir le soleil briller, comme ça je serais pas triste quand je vois la pluie tomber. Certainement ce qu'a dû se dire la malheureuse Ronnie Spector durant de trop longues années. Liée à Phil Spector, puis mariée avec lui de 1968 à 1972, elle a vécu auprès de cet homme un véritable enfer. Les histoires horrifique abonde sur le calvaire qu'elle a enduré. Des crises de jalousie atroces, pour commencer, parce que comme Spector avait peur qu'elle séduise d'autres hommes en son absence, il avait fait fabriquer un mannequin gonflable, il avait fait fabriquer un mannequin gonflable à son effigie, coiffé de la casquette qu'on lui connaissait. Il le lui avait offert à Ronnie, en même temps qu'une Chevrolet décapotable, avec pour elle l'obligation de ne pas la conduire sans installer le mannequin à côté d'elle en guise de leurre. Le soir même de leur noce, il l'avait enfermée dans la salle de bain avec sa belle-mère, donc la mère de Ronnie, à cause d'une querelle sur le paiement des frais du mariage. Et bien pis pour la carrière de sa femme, il avait interdit à Ronnie de participer à la tournée des Ronettes qui, en été 1966, chantait en première partie donc de l'ultime tournée des Beatles. Il avait carrément envoyé une autre chanteuse à sa place. Phil Spector, c'est apparemment véridique, avait fait construire un cercueil doré pour elle, posé dans un sous-sol donc de sa villa, surmonté d'un couvercle de verre. Il disait à Ronnie qu'il la coucherait dedans pour toujours si jamais elle tentait de s'enfuir de sa maison. Et de fait, il la maintenait captive, entourée de gardes du corps armés. Il était même imaginé aller jusqu'à lui confisquer toutes ses chaussures afin de couper court à toute velléité d'évasion. Ronnie raconte dans son autobiographie qu'elle s'est alors mise à boire, mais alors vraiment, vraiment ce qui s'appelle boire, autant qu'elle le pouvait, dans le but délibéré de parvenir à un degré d'alcoolisme tel que son état contraigne Spector à lui faire suivre une cure de désintoxication, ce qui lui aurait enfin permis de quitter sa prison. Voilà quel fut son martyr, enfin le mot n'est pas excessif. Bon, un beau jour, enfin si j'ose dire, de 72, Ronnie est malgré tout parvenu à prendre la fuite. Pieds nus, bah oui. Alors, il faut se demander si cette hantise en 66 de la part de Spector de voir Ronnie s'approcher des Beatles n'était pas liée à la romance que George Harrison avait brièvement vécu avec Ronnie Spector. Qui sait ? En tout cas, sur un plan artistique, il faut le souligner, George Harrison respectait beaucoup Phil Spector, lequel supervisa à Londres une partie des séances de son chef-d'œuvre de 1970. Je veux parler du triple album All Things Must Pass. Peut-être que Spector était tranquille à Londres de savoir Ronnie enfermé dans sa prison dorée à Los Angeles. En tout cas, Harrison et Spector avaient un projet ensemble, un album solo de Ronnie, composé de chansons écrites par George Harrison, un projet qui n'aboutit pas, ce qui n'est guère surprenant. Je ne sais pas par quel miracle, Harrison est arrivé à lui faire enregistrer en 71 cette excellente chanson, Try Some, Buy Some, un des sommets de la triste carrière de Ronnie Spector.
Way back in time, someone said try some. I tried some, now buy some. I bought some. Oh, oh, oh. After a while, when I had tried them, denied them, I opened my eyes and I saw you. Not a thing that I had, not a thing that I see, till I called on your love, and your love came to me.
All right.
Un duo explosif de Ronnie Spector avec le compagnon d'armes de Bruce Springsteen, j'ai nommé Surfside Johnny, You Mean So Much To Me, c'était en 1976. Alors pardon, je fais un peu l'ancien combattant ce soir et cette semaine aussi, hier avec mon souvenir d'Elvis Costello en 78 à l'Olympia. Il se trouve que j'ai eu la chance de voir Surfside Johnny sur scène avec son groupe les Asbury Jukes, c'était à Londres en 77, un des concerts les plus euphoriques de ma vie. Ces musiciens dégageaient une telle énergie, une telle joie, une telle fougue, je crois que j'ai jamais ressenti semblable enthousiasme depuis en écoutant des musiciens, c'était dingue, les gens étaient fous, ils voulaient plus les laisser partir. Et au beau milieu du concert, eh bien Surfside Johnny s'est interrompu pour annoncer une invitée spéciale et c'était Ronnie Spector. Je savais pas trop qui c'était, le nom de Spector me disait quelque chose, évidemment, je connaissais sa légende, son association avec les Beatles, bon bref, c'était notoire, mais quand cette petite femme est arrivée, incroyable boule d'énergie et que sa voix a résonné dans cette salle légendaire, le Rainbow, je sais pas, j'ai eu comme l'impression de l'éviter, voilà. Alors bien sûr, Ronnie Spector n'a jamais cessé de chanter, même si son nom est toujours resté associé à la période légendaire du milieu des années 60. Ça n'a bien sûr pas été facile du tout pour elle, vous avez vaguement une idée de pourquoi. Elle a consacré une très grande part de son énergie à batailler sur le terrain juridique contre Phil Spector, qui a longtemps refusé de lui donner un centime de royalty sur les chansons que les Ronettes avaient interprétées et qui ressurgissaient régulièrement dans quantité de compilations. Il a fallu qu'elle attende le début des années 2000 pour obtenir gain de cause. Et encore, les avocats de Spector ont-ils fait appel. Et à l'arrivée, ses gains ont été largement amputés. Son dernier album en date, qui n'a pas fait grand bruit, English Heart, remonte à l'année 2016. Et Ronnie Spector y reprenait des chansons des années 60, dont des chansons faites en Angleterre, hein, dont une curiosité signée par les Stones. Ils en avaient fait une maquette étiquette et puis il l'avait pas gardé. On a découvert ça dans une compilation des années 70. Une chanson étrangement très proche du style des Beatles qu'ils avaient coécrite avec leur manager Andrew Le Goldham et qui s'appelait I'd Rather Be With The Boys, que Ronnie Spector a transformé en I'd Rather Be With The Girls. En gros, je préfère être avec mes copines plutôt qu'avec toi. C'est fini maintenant. Je marche la tête haute. T'es plus qu'un mauvais souvenir. Alors je suis allé à la pêche aux perles rares que Ronnie Spector a pu égrener au fil des ans et j'en ai trouvé quelques autres comme une reprise très touchante de You Can Put Your Arms Around a Memory. C'est un des classiques du punk rocker new-yorkais maudit Johnny Thunders et c'est une réalisation de Joey Ramone. On l'entend faire des chœurs et d'ailleurs on l'entendra à la toute fin chanter un duo extrêmement touchant avec Ronnie Spector qui était vraiment son modèle vocal. Bye Bye Baby, c'est une des dernières choses qu'il ait faites avant sa mort. Et puis il y aura aussi une reprise très réussie de I'll Follow the Sun, une très belle chanson des Beatles, mais tout de suite une chanson bien oubliée des Stones interprétée par Ronnie Spector.
Vertigo Trip sur France Inter. It's a restless night.
see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. One day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. One day you'll find that I have gone. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Baby, un duo déchirant de Ronnie Spector avec Joey Ramone, c'était à la fin des années 90. Pour conclure cet éloge de Ronnie Spector, demain on retrouvera Elvis Costello, ce sera une dernière fois. Merci à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, merci à Alix Barois à la technique, Zorba Ismaili et Romain Couturier.